Voilà, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Merci d'exprimer votre fidélité par votre présence au pied du Seigneur en cet instant. Je vous invite à la prière. Vous m'entendez bien, au fond? Parfait. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions d'avoir fait de nous tes propres enfants pour que nous puissions hériter de ce royaume futur dans lequel Jésus régnera avec force et puissance pour l'éternité. Accorde-nous des oreilles des disciples pour entendre, au-delà du bruit du monde, la voix du Seigneur. Donne-nous un cœur réceptif à recevoir la semence de vie et accorde-nous une intelligence de la foi pour saisir ce que tu nous dis ce matin. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Il se trouve qu'un phénomène se manifeste dans le monde comme une force d'assoupissement. Chez le chrétien, elle tente de se manifester sous une forme qui anesthésie la foi, qui nous rend moins vigilants. Il nous faut oublier que nous sommes des étrangers et que nous sommes de passage. Il nous fait oublier que Jésus dit que je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez simples comme des colombes et vigilants comme des serpents. Nous avons célébré la fête de Noël, certes, fête de la lumière. Mais la lumière est déjà venue dans le monde. Elle a déjà accompli son œuvre et elle est en train d'accomplir son œuvre. C'est une œuvre éternelle. Et le summum de cette œuvre, c'est notre rencontre avec Jésus. C'est la perspective de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, même maintenant, est un des moyens que Dieu se sert pour nous préparer à cet événement-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aurai des séries de textes à lire. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous allons lire, la compréhension du mot change du naturel et au spirituel. Alors nous allons nous y employer. Que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de nous. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Et je souligne le mot « revêtit ». Suivant. Ça, c'est un texte dans Éphésiens. Je lis la première phrase. « Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence et à être revêtu de l'homme nouveau créé à la ressemblance de Dieu. » Galates chapitre 3, verset 27. Je lis la première phrase avant d'arriver là. Attends un peu. « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. » Verset 27. « Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être en Christ. » Je souligne le mot « revêtu ». Colossiens chapitre 3, je prends à partir du verset 9 pour une meilleure compréhension. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné l'être humain que vous étiez auparavant avec ses habitudes. » Verset 10. Et vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu notre Créateur renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Verset 14. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le mot encore, revêtir. Alors, j'en arrive à mon texte d'aujourd'hui. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Dans certaines versions, il dit vêtements de fête. quand tout en tes vêtements soit blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Et enfin, Romains chapitre 13, verset 14, « Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. » Vous voyez bien le mot qui revient, vêtements, revêtir, dont le sens change du naturel au spirituel. Mon texte aujourd'hui s'intitule « Comment se préparer pour le rencontrer ?» Alors donc, je vais à vous ce matin, dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile de Jésus-Christ. Cette bénédiction doit nous imprégner dans tous les détails de notre existence. Alors nous allons élever ainsi Jésus-Christ en tant que Seigneur. En effet, depuis la Pentecôte, le ciel de Dieu est ouvert. Aucune bénédiction n'est retenue. Car Jésus a dit que je n'ai rien dans mes mains. Ce que le Père m'a donné, je vous ai tout donné. Car avec le Christ, le Père nous a fait don, mais il nous a fait don de tout. Nous recevons ainsi de lui, dans notre vie, toutes les bénédictions que Dieu a mises en réserve et qui sont libérées en Jésus-Christ pour notre glorification et pour notre joie. Ces bénédictions sont disponibles et ils nous sont rendus accessibles que par le Christ. Que par le Christ. Toutefois, nous chrétiens semblons manquer un sens pratique qu'on peut nous reprocher à raison d'ailleurs. Notre seule préoccupation semble porter sur un christianisme au passé, lointain, dépassé. Ou alors on se projette trop dans le futur, et parfois de manière nébuleuse, sans vivre réellement le temps présent. Car les bénédictions de Dieu se conjuguent aussi au présent. Alors, à ce niveau, ça nous pose une question. La lumière de Christ qui a éclairé nos cœurs, qui a déjà fait son œuvre de transformation, qu'advient de cette lumière dans notre vie? C'est dans cette lumière que paraîtra Jésus le Christ lors de son second avènement. La première manifestation de sa présence est de mettre cette lumière à notre disposition. Et Jésus manifestera à nouveau sa présence, mais cette fois-ci pour la glorification. Elle aurait mis un point final à la restauration dans laquelle Dieu s'est engagé après que Adam et Ève avaient cédé la direction du monde à l'ennemi de notre âme. Alors c'est dans cette perspective que nous devons attendre le retour du roi des rois. Ne pas seulement nous contenter des festivités du passé, mais que nous soyons capables de nous projeter dans cet avènement qui vient. Car c'est une réalité. Le passé est le passé, nous ne pouvons pas le transformer. Mais par contre, l'avenir, nous pouvons le préparer maintenant. Et le meilleur des avenirs qui nous vient, c'est l'enlèvement de l'Église. Sous peu. Sous peu. Souvent, quand on parle de ça, les gens répliquent en disant que c'est depuis des temps anciens qu'on nous parle de cela. Mais je peux vous avouer qu'à l'instant précis, nous sommes beaucoup plus proches de ce temps que par le passé. Et le Seigneur nous interpelle à être prêts. Et pour être prêt, il y a des conditions à remplir. Il y a trois conditions principales. J'en aborderai une aujourd'hui. La première, c'est que nous devons avoir notre lampe allumée. La deuxième, c'est que nous devons avoir l'huile en permanence disponible. Et ça, vous me voyez bien dans les paraboles des cinq vierges. Matthieu chapitre 25. Mais ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, parce que les deux autres suivent lorsque nous obéissons à la première condition, c'est être revêtu de la justice et du vêtement blanc. Alors ainsi que cette année soit pour chacun d'entre nous une année de progrès spirituel, une année d'une plus grande proximité avec le cœur bienveillant de Jésus. Et je récite ce verset que nous avons développé le dimanche dernier après-midi. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est dire que l'année qui commence est une séquence d'une année nouvelle. Chaque jour qui vient ouvre la perspective d'une nouveauté. Et que j'espère que cette année nous fera grandir dans le Seigneur. Le Seigneur nous interpelle à marcher à sa suite. Mais qu'est-ce que c'est que marcher dans le sens des Écritures? Qu'est-ce que c'est que marcher à la suite de Jésus? Marcher évoque directement, justement, un déplacement. Et surtout dans le sens d'aller de l'avant, de progrès en progrès. Il signifie littéralement passer derrière quelqu'un. Il peut aussi signifier marcher à sa suite. Et Jésus a dit à Matthieu, « Toi, viens, suis-moi. » Mais il peut aussi signifier imiter. Et c'est pour cela que nous aurons à examiner, point par point, ces différents textes. Mais elle inclut également la manière dans laquelle nous devons régler notre vie, notre façon de vivre. Il inclut personnellement la qualité de notre relation déjà avec Dieu, la qualité de notre relation avec nous-mêmes, parce que souvent on ne le voit pas, que nous soyons en accord avec nous-mêmes. Quand on n'est pas en accord avec soi, on ne peut pas être en accord avec les autres. Et ensuite vient la qualité de notre relation avec notre prochain. Mais marcher aussi se rattache au témoignage. Et quand on parle de la façon de marcher, on y dit d'où est-ce que nous tirons notre inspiration. Il y en a trois. Il y en a trois, les sources d'inspiration. L'homme, Dieu et notre ennemi, Satan. Mais finalement, il se résume à deux. Parce qu'une pensée humaine, c'est une pensée que l'ennemi utilise. Notre source d'inspiration est la parole de la vérité ou alors la parole du mensonge. Quand on est dans l'une, on n'est pas protégé. Mais quand on est dans l'autre, présenté par le Seigneur, nous sommes comme revêtus de sa présence. Et nous avons la protection nécessaire. C'est une période de grâce dans laquelle nous sommes. Mais elle court à son terme. Bientôt. Quand Jésus reviendra, cette ère sera close. Une autre ère s'ouvre. Celle du règne éternel du Christ. Dont vous et moi, nous sommes les sujets. Non seulement des sujets, mais participants de ce règne éternel. Et c'est pour cela que Dieu est en train de nous préparer. On dit souvent dans le langage courant que c'est les oiseaux de même nature qui se rassemblent. Dieu ne peut pas se changer. Il est constant, il est lui-même, immuable. Par contre, nous, nous devons aller vers lui. Et c'est lui qui opère le changement pour que nous puissions développer la même nature que lui et d'être éligibles pour vivre avec lui. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas ta tête. Voilà une des conditions à remplir pour attendre le retour de Jésus-Christ. Être revêtu de vêtements blancs, vêtements de lumière. Les vêtements blancs est une image symbolique. Elle est présente dans toute la Bible. Elle signifie l'état de toute personne humaine dont le péché est effacé par la miséricorde de Dieu. Le vêtement blanc est l'image de la pureté, de l'être entier, esprit, âme et corps, comme le suggère 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je cite, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Plus loin, Philippiens, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu qui brillent comme un flambeau au cours de cette génération. » Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Cette prédication peut faire appel à la sanctification, mais elle va beaucoup plus loin que la sanctification. C'est l'état de notre être permanente. Être revêtu de vêtements blancs va beaucoup plus loin que d'être revêtu de vêtements physiques. En effet, la première des choses que Dieu a faites pour que Adam et Ève, qui avaient commis péché devant Dieu, se présentent devant le Seigneur, c'est de le revêtir d'une peau d'animaux. Et que cet animal soit mis à mort pour que cette peau soit utilisée pour revêtir Adam et Ève, afin que ceux-ci se présentent dans la présence de Dieu. Sans ce revêtement, ils ne peuvent pas être devant la présence de Dieu. Ils avaient essayé de se protéger avec les feuilles de figuier, mais ces feuilles avaient séché. Et les feuilles de figuier, par image, c'est l'acte de notre propre justice qui ne subsiste pas devant la présence du Seigneur. Si Dieu a revêtu Adam et Ève pour se présenter devant la présence de Dieu, c'est être revêtu de Jésus que nous pouvons nous présenter dans la présence de Dieu au retour de notre Seigneur. Au commencement de la Bible, être revêtu, et à la fin de l'événement, c'est être revêtu de la lumière du Seigneur. Le revêtement fait appel à la pureté du cœur. Le revêtement, c'est les sentiments du Christ. Et les sentiments qui étaient en Jésus, lequel n'avait pas conduit sa situation pour arracher d'être égal à Dieu. Être animé de sentiments d'amour, être animé de la compassion, c'est pour dire qu'être revêtu, c'est être habité à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être revêtus du Christ, pas de Jésus, du Christ. Parce que le mot Christ, c'est le signe de l'onction, c'est le signe de l'autorité que Dieu a donnée à Jésus. C'est Jésus que vous avez tué, Dieu a fait de lui le Christ et le Seigneur. Et il est où, le Christ et le Seigneur? Là où se trouve le Christ, là où je me trouve moi aussi. Christ est assis à la droite de Dieu. Et où est la droite de Dieu? C'est le centre de l'autorité, de l'omniscience, de l'omnipotence de Dieu. C'est là où Dieu domine toutes choses. Et si nous sommes assis avec Jésus, qu'est-ce que nous sommes appelés à dominer? Les hommes? C'est de dominer le péché. Nous dominer nous-mêmes. Parfois, notre vie nature a des tendances qui nous amènent à être loin de Dieu. Dominer notre vieille nature. Parce que nous sommes revêtus d'un homme nouveau. Et c'est le Christ qui est notre revêtement. Nous ne pouvons être sauvés qu'à condition de Dieu. Les gens pensent qu'ils peuvent être sauvés à leurs propres conditions. C'est Dieu qui est offensé par notre péché. Et c'est à ces conditions, à lui, que nous pouvons être sauvés. Souvenez-vous, la parabole des noces, où un roi a organisé un festin pour son fils. Il jettera un coup un coup d'œil sur les convives pour voir comment ils avaient été vêtus. L'un n'avait pas les vêtements de la fête. Quand tout en vous soyez revêtu de vêtements de la fête, et le père est rentré, il a vu un homme qui n'avait pas le vêtement de fête. La sanction est sans appel. C'est que nous sommes en route, mes bien-aimés. Débarrassez-vous d'une théologie qui dit que quand on vient en Jésus, mais on peut faire tout ce qu'on veut, on est sauvé. Attention. La Bible est très claire là. Sinon, le mot persévérance n'existerait pas. Sinon, le mot vainqueur n'existerait pas. Même si Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, que n'ayez pas peur, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. La victoire de Christ est notre victoire. Mais notre bataille, c'est contre notre nature. Notre bataille, c'est contre le monde qui tente de nous écarter de la loi du Seigneur. Et c'est en s'appuyant, en s'agrippant en Jésus, que nous aurons la force de résister. Mais si nous lâchons l'ami du Seigneur, nous coulons, nous allons à la dérive. Tu n'es pas habillé de vêtements requis dehors. Nous ne pouvons pas obtenir le salut à notre condition, c'est aux conditions de Dieu. Maintenant, la grande question, comment conserver notre vêtement blanc dans ce monde-là? C'est la partie la plus difficile du programme divin dans la vie de l'être humain. Commencer avec le Seigneur est une chose. Finir avec lui, c'en est une autre. C'est se conserver pur. Nous sommes sollicités par des convoitises et charnelles de toutes parts. Nous sommes envahis par des pensées qui nous bombardent l'esprit tout le temps. Les mauvaises informations. On a l'impression que chaque jour que nous parcourons notre route, on se retrouve au carrefour. Donc il est très salutaire de ne pas manquer l'abranchement. Et ça requiert notre vigilance. Et pour cela, nous avons besoin d'être fortifiés de l'intérieur. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Conserve-toi pur, toi-même. » C'est que se conserver pur soi-même implique une volonté. On ne démissionne pas devant notre volonté. Même si le diable avait suscité la convoitise chez Adam et Ève, il a fallu leur volonté pour pouvoir pécher. Et depuis lors, notre volonté est toujours du côté mauvais côté. Donc la vie chrétienne dans la sanctification consiste à discipliner sa volonté. Et souvent nous sommes habitués à des facilités, on ne parvient pas à travailler notre volonté. On se laisse aller, satisfaire l'humain, au nom de la liberté. Au nom du plaisir que nous nous accordons. Nous pensons que lorsque nous nous faisons plaisir, Dieu est content. Mais tout plaisir n'est pas un plaisir salutaire. L'apôtre Paul dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, certes, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, qu'il soit de la volonté de Dieu. L'exercice de volonté est très important. Et nous avons besoin de cela. Et c'est sur ça qu'il faut travailler si nous voulons garder nos vêtements blancs. Ces paraboles de Matthieu nous renvoient dans Apocalypse chapitre 19, dont j'aurai l'occasion de développer, mais je le lis quand même. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a donné de se revêtir du fin lin éclatant, pur. Car le fin lin ce sont les œuvres des justes, les œuvres des saints. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous ne pouvez pas prendre littéralement cette phrase. Nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. Alors vous allez me dire, mais à quoi consiste le verbe séparer? Elle consiste dans la mentalité. Ne pas développer les mentalités du monde. Quand on se sépare, on commence par là. Et c'est pourquoi l'une des premières opérations, lorsqu'on est de nouveau, ça s'appelle la repentance. Changement de la pensée à l'égard de Dieu d'abord. Les gens disent que changement de mentalité à l'égard du péché. Non, la repentance, c'est le changement de mentalité à l'égard de Dieu. Et après, lorsque j'ai une bonne image du Seigneur, une transformation se fait à l'intérieur de moi-même. Et j'aurai la crainte du péché. J'aurai en horreur ce qui est mauvais. Je m'attacherai à cultiver le bien, à cultiver la pensée du Christ. Et je serai la lumière que le Seigneur me demande d'être. Elle me permettra de me séparer de toute occasion de chute. Et à ce niveau, nous ne nous plaçons pas dans les positions d'être tentés. Nous prions le Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, certes, mais mettons-nous de côté. Ne nous plaçons pas dans une position où nous pouvons être tentés. Ne pas participer au péché d'autrui. Sortir de là. Alors pour terminer, être revêtu de vêtements blancs, c'est d'être sobre. Il existe dans les églises un relâchement, un certain relâchement, ou un relâchement certain. On s'accorde parfois des petites compromissions. Oh, ça, c'est pas grave, c'est mon péché mignon. Dieu, il est trop amour pour m'envoyer en enfer. Ne vous trompez pas. Dans le livre de Zacharie, le sacrificateur Josué, le souverain, quand il s'est tenu devant la présence de Dieu avec une robe blanche, le diable l'accusait pour une petite tâche. Une petite tâche. Peut-être lui-même, il ne s'en est même pas aperçu. Il s'en est aperçu qu'avec le regard du diable, parce que le diable l'accusait. Et Dieu avait envoyé un ange pour le dévêtir, pour le revêtir du vêtement blanc, pour sortir maintenant de l'accusation, pour être dans la justice du Seigneur. Voilà ce que Dieu nous demande. Attachons-nous au Seigneur par le temps qui court. C'est un effort que nous devons faire, pas pour répondre à notre propre désir, mais s'attacher à Dieu, s'efforcer à s'attacher à Dieu, en pensée surtout. Fuyez les endroits où on peut vous conduire à pécher. Fuyez les endroits où vous pouvez être tenté de faire des compromissions, même des compromissions avec la vérité. Même ceux qui estiment être les magistères, attention. Vous suivez mon regard? Dans les jours qui ont suivi, à l'heure actuelle, un homme, disons un homme d'église, prend une décision qui est contre la volonté de Dieu. De quel apôtre nous sommes? De quelle vérité dont nous sommes les défenseurs? Notre décision n'est pas destinée à gérer la cité du monde. Notre destinée est à gérer la vérité, notre attitude devant la vérité. Ne craignez pas d'obéir à la vérité, même ça va vous vouloir la brouille. Les gens aiment la paix beaucoup plus que d'aimer la vérité. Au nom de la paix, on sacrifie la vérité. Mais de quelle paix s'agit-il? Que le Seigneur nous aide. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Lavons nos robes par le sang de Jésus. C'est le meilleur détergent dont nous avons besoin. Je vous invite à la prière. Seigneur, souvent on ne se rend pas compte que nous sommes en train de glisser du droit chemin que tu as tracé devant nous. Jésus, toi qui es le chemin, qui nous mène vers le Père, tu as pris la précaution de placer de part et d'autre des balustrades pour nous éviter de faire des sorties de route. Mais souvent dans notre combat au niveau de la pensée, nous baissons la garde et nous intégrons dans ce chemin étroit des situations qui ne sont pas les tiennes et qui élargissent notre route. Or, est spacieux le chemin qui mène à la perdition. Étroit et resserré le chemin qui mène au salut. Garde notre esprit, notre cœur sur le chemin étroit qui est le chemin de la vérité, quel qu'en soit le prix. Jésus est victorieux. Le jour viendra où ceux qui l'ont renié se mettront à genoux. Et l'autorité de Christ se manifestera de par toute la terre. Ceux qui l'ont méprisé, ceux qui ont méprisé ses enfants et qui ont rendu certains en martyrs, notre Seigneur viendra et manifestera sa puissance, sa force. Il ne sera pas le petit Jésus de crèche, il ne sera pas le petit agneau qui a été offert sans résistance. Mais il sera celui qui se présentera comme le lion de la tribu de Juda, le juge. Il ne sera plus avocat. Seigneur, donne-nous de nous préparer à cet événement. Nous ne serons pas surpris parce que nous sommes les enfants de la lumière. Et toi, tu nous donnes des indices pour nous préparer à cette condition. Tu ne nous surprends pas. Et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.